Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Vous êtes bien sur Syllab, dans J'irai cracher sur vos ondes, l'émission qui s'occupe de la littérature. Alors d'habitude, c'est vrai, on essaye de faire genre, la littérature c'est cool, c'est jeune, c'est moderne, c'est sexy. Aujourd'hui, on va faire exactement l'inverse. Aujourd'hui, on va vous parler des monuments de la littérature. Vous savez, ces livres qui vous font peur, ces livres que vous n'avez pas envie de lire, mais que quand même, ce serait bien de pouvoir en parler, d'enfin faire partie du cercle très restreint des gens qui ont lu Proust, par exemple. Et aujourd'hui, on a un gros casting. On a un gros casting parce que on va commencer par aller voir du côté de Marie Chaly avec Frankenstein. C'est Sandrine qui va nous en parler. Bonjour Sandrine.
Bonjour à toutes et à tous.
Ensuite, on ira faire un tour du côté d'un monument. Alors bien sûr, un peu déprécié parce que toujours il y a ce problème, ce clash entre la littérature de l'imaginaire et les autres. Mais on ira faire un tour du côté du Seigneur des Anneaux. C'est Clara qui va s'en occuper. Ensuite, on aura une chronique d'un de nos anciens membres de l'émission, qui s'appelle Jean, et qui revient en fanfare pour nous parler des Misérables. Donc là aussi, gros monument. Et puis, je finirai par vous parler d'Ulysse de James Joyce, un monument qui m'a posé beaucoup de problèmes.
On a hâte de savoir pourquoi.
La taille, déjà. Voilà, donc cette émission spéciale monument, on va la débuter en écoutant une chronique sur Frankenstein.
Eh bien, bonjour. Oui, dans la thématique de notre émission, les classiques de la littérature, les monuments, eh bien, j'ai pensé à ce livre, Frankenstein. Frankenstein. En fait, je suis tombée dessus, chez des gens, dans le cadre d'un déplacement en Charente. Alors, je pourrais dire que ce livre n'est pas du tout arrivé par hasard dans ma vie. En fait, je ne connaissais même pas le titre exact. Je connaissais Frankenstein, mais j'avais omis le Prométhée moderne. Et c'est quand même très, très, très important. Parce que dans la mythologie grecque, c'est simplement un titan. Voilà, simplement un titan. Il est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe. Et pourquoi ? Bien pour en faire un don aux humains. Et c'est lui qui a créé les hommes à partir de l'argile. D'où Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit un court texte il y a quelques semaines citant Prométhée. Alors voilà, moi ça me fait sourire. C'est à mes yeux un très joli clin d'œil aux coïncidences. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un ouvrage de littérature gothique, fantastique, un ouvrage de science-fiction anglais paru en 1818. C'est un récit épistolaire. Et ce huis clos, eh bien, est très très important. C'est un roman d'horreur. Et l'autrice Marie Shelley, eh bien, en fait, pourquoi elle a écrit cette histoire ? Elle a envie d'en écrire, elle ne savait pas trop faire, elle ne savait pas comment partir, comment faire démarrer ce processus créatif. Elle est partie d'un cauchemar, en fait. Et c'était ça, cette étincelle. Un médecin scientifique obsédé par la volonté de créer un être vivant à partir de morceaux de corps humain. Et en fait, elle fut tellement inspirée qu'elle rédigea un roman. Alors que raconte-t-il ? Bon, tout d'abord, sachons, moi la première, que Frankenstein a souvent été pris à tort comme le nom de la créature.
Ouais.
Et c'est pas du tout ça. En fait, il s'agit du nom du médecin, Victor Frankenstein. Ouais. Celui qui a découvert le secret de la vie, de donner la vie. Et ce savant fou, et oui, je le considère bien comme un savant fou, au vu de la lecture, il réanime un amoncellement de corps par la foule. Je propose un petit extrait de lecture. Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler les résultats de mes longs travaux. Avec une anxiété qui confinait à l'agonie, je disposais à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà 1 heure du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif. Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe ? Où trouver les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins et de tant d'efforts ? Ses membres étaient certes bien proportionnés et je m'étais efforcé de conférer à ses traits une certaine beauté. de la beauté, grand Dieu, sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse, ses dents d'une blancheur nacrée. Mais cela ne faisait que mieux ressortir l'horreur des yeux vitreux, dont la couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafards, dans laquelle ils étaient profondément enfoncés. Cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et de la bouche rectiligne aux lèvres presque noires. Bien que multiples, les péripéties de l'existence sont moins variables que le sont le sentiment humain. Pendant 2 années, j'avais travaillé avec acharnement, dans le seul but d'insuffler la vie à un organisme inanimé. Je m'étais pour cela privé de repos et j'avais sérieusement compromis ma santé. Aucune modération n'était venue tempérer mon ardeur. Et pourtant, maintenant que mon œuvre était achevée, mon rêve se dépouillait de tout attrait et un dégoût sans nom me soulevait le cœur. Ne pouvant supporter davantage la vue du monstre, je me précipitai hors du laboratoire. Réfugié dans ma chambre à coucher, je me mis à aller et venir sans pouvoir me résoudre à chercher le sommeil. Mais mon tumulte intérieur finit tout de même pour s'apaiser, vaincu par la lassitude. Je me jetai tout habillé sur le lit, dans l'espoir de trouver quelques moments d'oubli. Ce fut en vain, je dormis bien un peu, mais en proie à des rêves terrifiants.
Ta ta ta.
Ensuite, l'origine de ce récit, eh bien, quel est-il ? Lord Byron sollicite ses amis en Suisse, dont Mary Shelley, l'autrice, et son époux Percy. Écrivain, lui aussi. En fait, il les sollicite pour rédiger une histoire d'épouvante. D'où le récit que je viens de vous raconter. Ce roman est publié anonymement alors qu'elle n'a que 18 ans et il faut avouer que ce livre connaît un succès immédiat. L'époque dévoile alors le début des expériences scientifiques. Bon, de quoi ça parle ? Voilà, c'est ça. Ce roman de Mary Shelley retrace la vie du docteur Frankenstein et de sa créature née dans un laboratoire grâce à cette fameuse, je cite, « étincelle de vie » qu'il a fait naître à partir de morceaux d'êtres humains morts. Par ces mots, l'autrice, sans doute, révèle le début des expériences scientifiques de son époque. Bon, moi j'avoue, je me demande à la fin de la lecture qui est vraiment le monstre dans cette histoire. En effet, le désir de donner vie répond à la folie de cet homme, quel qu'en soit le résultat et les procédés, et surtout les terribles souffrances de la personne réanimée. Mais qu'en est-il de son esprit, de son âme, et de ses joies et de ses peines ? Alors voilà, Victor Frankenstein, le toubib, horrifié, abandonne sa créature à cause de sa laideur, mais pas seulement, et j'en dirai pas davantage. Bon, l'histoire est vraiment loin d'être finie. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, et surtout, beaucoup d'intérêt à les lire. Le monstre mis à l'écart prend une place très importante dans la narration. Ses souffrances, elles sont généreusement abordées. Je vous propose un court extrait. Maudit, maudit créateur, pourquoi m'avoir donné la vie ? Pourquoi n'ai-je, à cet instant même, étouffé la flamme de vie que vous aviez si inconsidérément allumée en moi ? Je ne sais. Le désespoir ne s'était pas encore emparé de moi. Je ne nourrissais que rage et volonté de vengeance. Avec quel plaisir j'aurais détruit le chalet avec ses habitants, et combien je me serais réjoui d'entendre leurs cris d'effroi et de douleur ! Lorsque la nuit fut tombée, je sortis de ma retraite et me mis à errer dans les bois. N'ayant plus à craindre d'être découvert, je donnai libre cours à mon angoisse, en poussant des hurlements qui n'avaient rien d'humain. J'étais pareil à une bête sauvage ayant brisé les chaînes qui la retenaient prisonnière, détruisant tout ce qui s'opposait à mon passage, fonçant sous la ramée avec la vélocité d'un cerf aux abois. Ah, l'affreuse nuit ! Les froides étoiles semblaient se moquer de moi, et les branches décharnaient s'agitaient au-dessus de moi comme pour me narguer. De temps à autre, la douce voix d'un oiseau venait rompre le silence universel. En ce moment, tous les êtres se reposaient ou s'amusaient. Moi, seul, tel le démon par excellence, je portais mon enfer en moi et ne trouvant personne avec qui sympathiser, j'aspirais à arracher les arbres et à semer sur mon chemin la destruction et la mort. Après quoi, je me serais assis pour contempler les ruines. Mais une telle débauche de sensations ne pouvait se prolonger indéfiniment. Cédant à l'excès de dépenses physiques, je me laissais choir dans l'herbe humide, malade d'impuissance et de désespoir. parmi les myriades d'humains que compte le globe. Il n'en existait donc pas un seul qui accepta de prendre pitié de moi ou de me venir en aide. Pourquoi alors aurais-je éprouvé de la bonté pour mes ennemis ? Non, à ce moment, je lançais un impitoyable défi à l'ensemble du genre humain, et plus particulièrement à l'homme qui m'avait façonné et m'avait plongé dans ses intolérables tourments. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait de la créature et d'une confession particulièrement émouvante. Alors, je voudrais terminer.
Je ne savais pas, par exemple, que la créature, elle avait comme ça, que sa voix était inscrite dans le roman. Je pensais que c'était uniquement un personnage qu'on voyait comme ça depuis l'extérieur, mais je ne savais pas qu'on avait accès à ses pensées, que ça n'a pas l'air facile d'ailleurs ce qui se passe d'ailleurs dans sa tête.
C'est ça, et ça le rend particulièrement, si je puis dire, humain. En tout cas, ça nous permet une forme de projection. Et évidemment, on pense à ses confessions comme peut-être des choses que d'autres personnes peuvent vivre.
Ouais, ouais.
Et c'est justement cette histoire, en fait, est un récit philosophique. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, justement, à travers cette possibilité que nous offre Marie Chalet d'écouter sa voix. Ça traite, évidemment, du rejet d'un homme pour son œuvre, sa réalisation. Oserais-je dire son fils, ou alors son propre reflet, ce miroir, sa dualité. Je ne peux pas m'empêcher de faire une analogie, cette relation entre le bien et le mal, et cette contradiction que nous portons tous et toutes en nous, l'amour, la haine, l'amour... Bon, pour finir, j'ai beaucoup aimé la description, voilà, la confidence des sentiments, des émotions, cette voix notamment portée, le ressenti des personnages, tous les personnages, et en particulier quand même celle de la créature qui a la pleine conscience de ce qui lui arrive. Allez, je termine cette chronique avec la musique de This Mortal Coil. C'est un groupe anglais de cold wave, de rock gothique. En fait, hier, ce que je voulais rajouter aussi, je me suis promenée en forêt. Bon, j'adore la forêt, j'adore la nature. Et une pensée suite à la lecture de ce roman a surgi. Et je me demandais ce que j'aurais fait si, en forêt, j'avais rencontré cette créature. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et à vous qui m'écoutez, est-ce que vous l'auriez aidé ou rejeté ? Quelle part de soi se cache dans l'exclusion ou l'acceptation de l'autre ? Qui de Frankenstein ou son créateur vit en nous ? Allez, c'était la petite minute de philosophie. À bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous. Thank you.
c'était This Mortal Coil avec Fond Affections. Vous êtes sur Scilab dans J'irai cracher sur vos ondes pour une spéciale monument de la littérature. Et on écoute tout de suite la chronique de Clara.
Ah, le confinement, ça m'avait pas particulièrement manqué. Et vous ? Bon, il y aurait au moins un avantage indiscutable, j'ai pu finir la lecture du livre dont je vais vous parler ce soir. Entre le soleil, les oiseaux qui chantent et le froid qui persiste, c'était l'occasion idéale pour moi de reprendre une saga que j'avais déjà lue au lycée et que j'avais hâte de ressortir. Que dites-vous ? Clara, il faudrait réviser tes partiels ? Oui, certes, mais un livre n'attend pas. Et vous allez voir que si vous commencez celui-là, vous aussi vous aurez envie de préparer votre boisson préférée et de ne plus ouvrir votre agenda tant que vous ne serez pas arrivé à la toute dernière page. Même si, sur cette page, un petit 1098 est imprimé à l'encre noire. Pour les besoins de cette émission, j'ai donc eu avec moi une encyclopédie pendant ces trois dernières semaines. Oui, vous avez bien entendu, une encyclopédie. Et je parle pas seulement de la taille relativement importante de l'objet. Histoire, géographie, mythes, langue, grammaire, mode de vie des personnages, tout y est. Alors voilà, j'ai lu, ou plutôt relu, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Né en 1892, Tolkien a été poète, philologue, professeur d'anglo-saxon à l'université, et bien sûr, écrivain. Avant de parler de cette saga en particulier, il est intéressant de savoir que Tolkien a beaucoup, mais vraiment beaucoup, écrit. L'un de ses fils s'est d'ailleurs attelé à récupérer les archives de son père et à y remettre de l'ordre dans le but de poursuivre la publication. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà du Seigneur des Anneaux, qui a été publié en 1954, ou l'histoire précédente, Le Hobbit, il y a tout un imaginaire créé par l'auteur dans les moindres détails. Par exemple, le Silmarillion, une œuvre publiée à titre posthume par les enfants de Tolkien, retrace, pour faire simple, les premières époques de la Terre du Milieu, c'est-à-dire le cadre dans lequel se passent les histoires du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce livre, c'est un peu une sorte de compilation de tous les événements qui se sont passés avant. Sachant que le Seigneur des Anneaux, c'est rien de moins qu'une trilogie d'un peu plus de 1000 pages au total. Que le Hobbit, c'est un petit roman de 300 pages, et que le Silmarillion compte, lui, presque 400 pages. Bon, alors si je vous dis qu'en plus Tolkien a écrit bien d'autres mythes et légendes sur son univers, je vous vois déjà froncer les sourcils derrière votre poste en vous disant « Mais pourquoi elle nous parle de ce livre ?» si c'est pour insister sur le temps que ça prendra de le lire. Eh bien justement, parce que livre interminable ou pas, l'univers de Tolkien vaut la peine d'être découvert. Tolkien, on en a aujourd'hui plus ou moins tous entendu parler, même sans avoir vu le livre, hein, ou même sans avoir vu les adaptations cinématographiques, on a une vague idée de ce qu'est Le Seigneur des Anneaux. Pour résumer, c'est un livre de fantasy dans lequel un jeune hobbit, Frodon, hérite d'un anneau, accompagné de Gandalf, un puissant magicien, de nains, d'elfes, d'un roi qui a perdu sa couronne et de ses autres amis hobbits, il se retrouve dans une période de guerre entre les différentes puissances de son époque. Comme l'indique le titre du roman, l'enjeu principal tourne autour de cet anneau qui, en plus d'être une immense source de pouvoir convoité par tous, il a également un pouvoir sur les esprits des individus. L'anneau est presque personnifié dans cette histoire et à plusieurs reprises, les personnages ne sont pas certains d'avoir un total contrôle d'eux-mêmes. La quête principale de la petite troupe de personnages que l'on suivra dans la plus grande partie du livre est donc de détruire cet anneau pour mettre fin à la guerre qui a commencé et éviter à Sauron, pour résumer le grand méchant de l'histoire, celui qui a forgé le fameux anneau, de les réduire tous en esclavage. Alors je caricature un petit peu parce que c'est difficile de vous résumer en une petite chronique une histoire aussi complexe, mais vous verrez si vous le lisez que la destruction de cet anneau, c'est pas la tâche la plus facile, mais cet extrait est assez parlant pour montrer le début des difficultés. Et promis, il ne vous spoilera rien.
Frodon tira de nouveau l'anneau de sa poche et le regarda. Il paraissait à présent lisse et uni, sans aucune marque ou devise visible. L'or semblait très clair et très pur, et Frodon admira la richesse et la beauté de sa couleur, la perfection de sa rondeur. C'était un objet admirable et grandement précieux. En le sortant, Frodon se proposait de le jeter loin de lui dans la partie la plus chaude du feu, mais il s'aperçut qu'il ne pouvait le faire sans une grande lutte. Il soupesa l'anneau dans sa main, hésitant et s'efforçant de penser à tout ce que lui avait dit Gandalf. Et puis, par un effort de volonté, il fit un mouvement, comme pour le jeter, mais il s'aperçut qu'il avait remis l'anneau dans sa poche. Gandalf eut un ricanement sinistre. « Vous voyez, déjà vous aussi, Frodon, vous ne pouvez l'abandonner facilement, et vous n'avez pas la volonté nécessaire pour l'endommager. Et je ne pourrais pas vous le faire, sauf par la force, ce qui vous briserait l'esprit. » Mais pour ce qui est de briser l'anneau, la force est vaine. Le prendriez-vous et le frapperiez-vous avec une pesante masse? Vous n'y feriez pas la moindre bosselure. Il ne peut être détruit par vos mains, ni par les miennes.
Alors après cet extrait, j'ai envie de vous lire les mots de Christopher Frank, qui a écrit pour Le Point un avis sur ce livre, et qui va vous donner un aperçu de ce qu'est cette œuvre. Il dit « Le Seigneur des Anneaux doit-il la majeure partie de son charme à la conviction qui a présidé sa conception ? Géographie, histoire, généalogie légendaire, juxtaposition minutieuse d'infimes détails sur un canevas si riche et si coloré, sur ces peuples étranges, hobbits, elfes, etc., qui rendent le conte plus attachant que je ne saurais le dire et peuplent les rêves du lecteur d'images indélébiles, au charme et à la grandeur sournoisement efficaces. J'envie celui ou celle qui ouvrira Le Seigneur des Anneaux pour la première fois et va découvrir l'un des plus beaux livres que je connaisse. » Combien de personnes m'ont dit ne pas avoir réussi à finir les 30 premières pages sur les hobbits et n'ont donc jamais entièrement lu le livre ? Eh bien, vous savez quoi ? Vous n'êtes pas du tout obligé de les lire. Pour avoir fini le livre, je peux vous assurer que vous arriverez quand même à suivre l'histoire. D'ailleurs, j'avoue que j'ai un petit peu triché en évitant le long prologue quand j'ai relu le livre. Mais bon, ça reste entre nous. Dans son œuvre, Tolkien a fait un grand travail sur la création de l'univers. Il a accordé une importance à la cohérence historique et géographique du récit. Dans les annexes, on peut retrouver par exemple des histoires de succession royale, des arbres généalogiques ou encore des explications détaillées sur les langues utilisées dans l'histoire. Il m'est même arrivé de devoir faire des recherches pour savoir si, oui ou non, certains objets existent tellement les détails peuvent paraître cohérents. Donc je vous propose à ce sujet la lecture d'un passage du premier tome.
Le mithril, il faisait l'objet du désir de tous. Il pouvait se marteler comme le cuivre et se polir comme le verre. Et les nains savaient en faire un métal léger et pourtant plus dur que l'acier trempé. Sa beauté était celle de l'argent commun, mais il ne se ternissait pas et ne devenait jamais mat. Les elfes lui portaient un amour extrême et parmi maintes usages, ils en faisaient Tildrin, l'étoile lune que vous avez vue sur les portes. Bilbon avait un corselet de mailles de mithril que lui avait donné Thorin. Je me demande ce qu'il en est advenu. Il doit ramasser les poussières à la maison des matones de Grande Cave, je suppose. Comment ? S'écria Gimlin, que l'étonnement tira de son silence. Un corselet d'argent de la Moria ! C'était un présent royal ? Oui, dit Gandalf. Je ne lui ai jamais dit, mais la valeur en était plus grande que celle de la comté entière avec tout ce qu'elle contient. Frodon ne dit rien, mais il passa la main sous sa tunique pour toucher les anneaux de sa cotte de maille. Il était confondu à la pensée d'avoir déambulé avec le prix de toute la comté sous sa veste. Bilbon avait-il su ? Il ne se doutait aucunement que Bilbon le savait parfaitement. C'était certes un cadeau royal. Mais à présent, les pensées de Frodon s'étaient reportées des sombres mines de Fondcombe à Bilbon et à Cul-de-sac, au temps où Bilbon y était encore. Il aurait voulu de tout son cœur être à nouveau là-bas, dans ce temps-là, à tondre la pelouse ou à flâner parmi les fleurs, et n'avoir jamais entendu parler de la Moria, du mithril ou de l'anneau.
Comme vous avez pu l'entendre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de descriptions. Entre le style de l'auteur, la multitude de détails et le nombre de pages, on peut avoir envie de repousser l'ouverture de ce livre. Alors je donne quelques astuces pour avoir moins peur de commencer cette lecture. Premièrement, lire la trilogie séparément. J'avais sous la main que l'intégrale du Seigneur des Anneaux, autrement dit un bon gros bouquin d'un peu plus de 1000 pages, dont j'ai eu du mal à voir le bout. Pour ceux qui aiment se plonger le plus longtemps possible dans l'univers du livre, c'est une bonne idée. Mais sinon, pour les plus petits lecteurs, je vous conseille plutôt de lire chaque livre un par un. Si, si, croyez-moi, c'est comme un effet d'optique, et ce sera plus agréable à lire. Autrement, il y a des chansons. Beaucoup de chansons. Peut-être même trop de chansons. Mais dans tous les cas, faut savoir que sur la totalité de la saga, il y a un bon nombre de pages qui au final comportent peu de mots. Et si vraiment vous avez hâte de finir la lecture, vous pouvez toujours vous passer de ces paroles qui sont parfois un petit peu incompréhensibles. Et entre nous, les chants qui ont une réelle importance pour le déroulé du récit sont ensuite résumés par les personnages. Et puis il n'y a pas que les chansons, il y a aussi toutes les annexes, qui sont certes intéressantes mais pas indispensables. Il y a aussi les cartes de la Terre du Milieu, etc. Donc si on compte plus toutes ces pages, le livre est beaucoup moins dense. Mais au final, c'est cet ensemble que compose le monument qu'est le Seigneur des Anneaux, qui en fait une œuvre aussi lue et relue, et à tous les âges. Et puis au fond, entre nous, qu'est-ce que serait cette œuvre sans toute la difficulté qui entoure sa lecture ? Est-ce qu'un Seigneur des Anneaux sans longue description de collines et d'épées, sans détails géographiques précis, sans dossier sur l'histoire de ses personnages, ou sans chansons qui rythment les péripéties tout au long de ces 3 tomes ? Est-ce qu'un Seigneur des Anneaux sans toute cette longueur et toute cette richesse d'univers serait vraiment un Seigneur des Anneaux ? Ma chronique commence à être un petit peu longue, alors je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser vous faire votre propre avis, et je vais vous souhaiter à tous et toutes une très bonne soirée et de bonnes lectures. May it be an evening star, shine.
c'était May It Be de Enya, qui accompagnait la chronique de Clara sur Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qu'on a joyeusement inclus dans cette émission spéciale Monument de la littérature. On va continuer cette émission avec peut-être The Monument of the Literature, et pour ça je vais laisser la parole à Jean.
Bonjour tout le monde. Quand Marion, ma vieille copine de prépa-lettres, m'a proposé de participer à cette émission dédiée au Monument de la littérature, l'invitation m'a parlé tout de suite. Je vous explique, comme je lis finalement très peu, malgré mes études de littérature et ma participation à cette émission pendant 4 ans, j'ai tendance à aller vers des bouquins qui comptent, ont compté ou compteront. Ceux qu'on a tendance à appeler les classiques, les textes qu'on étudie en classe. Ceux qu'on étudie en effet et ceux qu'on devrait peut-être étudier. Car il ne faut pas non plus être fermé et passéiste quand on veut être classique. Cette année, par exemple, j'ai profité des confinements pour lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, Les Furtifs d'Alain Damasio, et pour terminer, Les Misérables de Victor Hugo, dont je vais vous parler aujourd'hui. Après ma mère, ce sont évidemment mes études littéraires, les années de classe prépa surtout, qui m'ont inculqué ce goût des classiques. Ce ne sont pas toutes des lectures faciles. En reprenant mon deuxième tome des Misérables, plus d'un an après avoir terminé le premier, je me suis quand même posé quelques questions sur cette motivation quand j'ai dû me taper une soixantaine de pages sur la vie religieuse dans un couvent parisien, son histoire et celle des ordres religieux qui y ont vécu. Pourquoi est-ce que je m'imposais ça? Est-ce que je ne perdais pas de vue cet idéal enchanteur, qui sert aussi de fond de commerce au libraire, selon lequel la lecture est avant tout un plaisir? C'est une question ardue, à laquelle je prétends pas répondre autrement que par une pirouette. La lecture des classiques de la littérature est un plaisir peut-être moins immédiat que le binge-reading d'un Harry Potter, d'un thriller de Franck Siliez ou d'une série de comics. Et un plaisir de la langue et de son maniement, de la pensée et de sa construction. Quand on lit Victor Hugo, notamment certains passages des Misérables qui ressemblent à de longues dissertations sur la misère humaine, sur la foi et la rédemption, ou sur ce que devrait être un gouvernement républicain, on ne peut faire autrement que de vibrer au rythme d'une prosodie qui fait claquer les phrases de son discours par sa virtuosité. Et même dans une page où on ne comprend pas tout, on s'arrête régulièrement sur un passage dont la clarté est telle qu'on a l'impression que l'auteur met enfin des mots sur une pensée sublime qu'on avait toujours pressentie. Il y a un autre élément qui rentre en compte dans mon goût pour les classiques. C'est l'envie de découvrir enfin par moi-même toutes ces références que j'ai entendues citer, que j'ai parfois maniées aussi sans les connaître vraiment. Quand on passe par des études littéraires, on se retrouve souvent à parler d'œuvres qu'on n'a pas lues, à les analyser sur le plan de la théorie littéraire sans même savoir le nom des personnages, à tout vite catégoriser. Victor Hugo, auteur romantique, le poète visionnaire doit éclairer le peuple, l'histoire avec un grand H fait une entrée fracassante sur la scène du théâtre et dans le roman. Mais encore, et les Misérables dans tout cet esbrouffe? Pour en apprécier la réelle saveur, il faudra se farcir les quelques 1500 pages de ce qui est bel et bien un pavé dans l'édifice de notre littérature. Marion peut témoigner. Hein,
je témoigne.
Tu balances ça sur un CRS, ça fait du réfifi en manif. Hein.
Il peut faire qu'elle porte aussi.
Ben en fait, ça cale tout notre édifice littéraire, littéralement.
Ah, ouais, ouais.
Les Misérables, donc, c'est une œuvre phare, une des œuvres phares de Victor Hugo. Le roman paraît en 1862, après 2 années d'écriture intense. Victor Hugo a alors 60 ans, il vit à Guernesey, exilé depuis la prise de pouvoir de Napoléon III en décembre 1851. C'est un livre politique, évidemment. Il débute par un épigraphe resté célèbre.
« Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Hauteville House, 1er janvier 1862.
À entendre ces mots, il paraît évident qu'aujourd'hui, le roman Les Misérables n'a rien perdu de sa valeur. C'est aussi, comme le dit Charles Baudelaire dans sa préface, un livre de charité, un livre religieux dont les enseignements seront profitables, quelle que soit votre confession. Car il porte sur l'élévation de l'âme dans la rédemption. Je résiste pas à l'envie d'une nouvelle citation. Ce livre est un drame dont le premier personnage est l'infini, l'homme est le second. Qu'est-ce que ça pète quand même ! Pour résumer plus simplement, Les Misérables, c'est une grande fresque historique de la France au XIXe siècle. L'action se passe globalement entre 1815 et 1832 et s'attache plus particulièrement au destin de Jean Valjean, ancien bagnard, récidiviste
éternel fugitif qui tente de reconstruire sa vie et surtout de devenir un homme meilleur après sa rencontre avec Monseigneur Bienvenu, évêque de Digne, près de Nice.
Pendant qu'il pleurait, le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau. Un jour extraordinaire, un jour ravissant et terrible à la fois. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation, son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque, tout cela lui revint et lui apparut, clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Il regarda sa vie, et elle lui parut horrible. Son âme, et elle lui parut affreuse. Cependant, un jour doux était sur cette vie et sur cette âme. Il lui semblait qu'il voyait Satan à la lumière du paradis. Combien d'heures pleura-t-il ainsi? Que fit-il après avoir pleuré? Où alla-t-il? On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que, dans cette même nuit, le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait à Digne vers 3 heures du matin, vit, en traversant la rue de l'évêché, un homme dans l'attitude de la prière, à genoux sur le pavé, dans l'ombre, devant la porte de Monseigneur Bienvenu.
Jean Valjean fait donc amende honorable. Sa repentance sera son chemin de croix. Il change d'identité, devient industriel, ami des pauvres, maire de Montreuil-sur-Mer dans le Nord. Mais il est poursuivi tout au long du roman par Javert, un policier implacable dont chaque apparition redoutée, excepté la dernière, force Jean Valjean à abandonner sa nouvelle vie. Sur son parcours, l'ancien bagnard prend sous sa protection l'orpheline Cosette, fille d'une de ses ouvrières, Fantine, morte dans la misère la plus complète. La fillette a été confiée au redoutable Thénardier, couple tortionnaire, filou de première, qui joueront les grands méchants de cette épopée. Leurs atrocités tout au long du roman illustrent cette idée clé du livre et de la pensée de Victor Hugo, selon laquelle c'est la misère matérielle et sociale qui conduit à la misère morale. Comme un cycle de la violence que reprend le film de Lajli, sorti en 2019 et également intitulé Les Misérables.
Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition, conservé quelques souvenirs de cette Thénardier grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile. Elle tenait, nous l'avons dit, de la race de ces sauvagesses colosses qui se cambrent dans les foires avec des pavés pendus à leur chevelure. Elle faisait tout dans le logis. Les lits, les chambres, la lessive, la cuisine, la pluie, le beau temps, le diable. Elle avait pour tout domestique Cosette, une souris au service d'un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles et les gens. Son large visage, criblé de taches de rousseur, avait l'aspect d'une écumoire. Elle avait de la barbe. C'était l'idéal d'un fort de la Halle, habillé en fille. Elle jurait splendidement. Elle se vantait de casser une noix d'un coup de poing. Sans les romans qu'elle avait lus, et qui, par moments, faisaient bizarrement reparaître la mijaurée sous l'ogresse, jamais l'idée ne fut venue à personne de dire d'elle « c'est une femme ». Cette Thénardier était comme le produit de la greffe d'une donzelle sur une poissarde. Quand on l'entendait parler, on disait « c'est un gendarme ». Quand on la regardait boire, on disait « c'est un charretier ». Quand on la voyait manier Cosette, on disait « c'est le bourreau ». Au repos, il lui sortait de la bouche une dent. Le Thénardier était un homme petit, maigre, blême, anguleux, osseux, chétif, qui avait l'air malade et qui se portait à merveille. Sa fourberie commençait là. Il souriait habituellement par précaution et était poli à peu près avec tout le monde, même avec le mendiant auquel il refusait un liard. Il avait le regard d'une fouine et la mine d'un homme de lettres. Il ressemblait beaucoup au portrait de l'abbé de Lille. Sa coquetterie consistait à boire avec les rouliers. Personne n'avait jamais pu le griser. Il fumait dans une grosse pipe, il portait une blouse et sous sa blouse un vieil habit noir. Il avait des prétentions à la littérature et au matérialisme. Il y avait des noms qu'il prononçait souvent pour appuyer les choses quelconques qu'il disait. Voltaire, Rénal, Parny et, chose bizarre, Saint-Augustin. Il affirmait avoir un système. Du reste, fort escroc. Un philosophe. Cette nuance existe. On se souvient qu'il prétendait avoir servi. Il comptait avec quelque luxe qu'à Waterloo, étant sergent dans un 6e ou un 9e léger quelconque, il avait, seul contre un escadron de hussards de la mort, couvert de son corps et sauvé à travers la mitraille, un général dangereusement blessé.
Une fois Cosette arrachée des griffes de ses geôliers, direction Paris, où le père et la fille adoptive se plantent quelques années dans le couvent dont je vous parlais au début. Quand Cosette a 15 ans, il s'installe dans une petite maison de la capitale. Paris, c'est un pan entier des Misérables, avec certains passages qui sont des déclarations d'amour à cette ville lumière, mais sans jamais oublier d'en désigner toute la noirceur qui en est le revers, la misère sous toutes ses formes. Il y a même un splendide passage sur comment l'argot des criminels est une forme de résistance par le langage à la misère et au système qu'il engendre. Un des personnages inoubliables du livre, qui incarne justement cet argot, c'est le petit Gavroche, fils des Thénardier, mais avant tout enfant des rues, survivant difficilement de débrouilles et qui, à 10 ans à peine, se bat farouchement sur les barricades.
Paris commence au badaud et finit au gamin, deux êtres dont aucune autre ville n'est capable. L'acceptation passive qui se satisfait de regarder et l'initiative inépuisable. Prud'homme et Fouillou. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Toute la monarchie est dans le badaud. Toute l'anarchie est dans le gamin. Ce pâle enfant des faubourgs de Paris vit et se développe, se noue et se dénoue dans la souffrance, en présence des réalités sociales et des choses humaines, témoin pensif. Il se croit lui-même insouciant. Il ne l'est pas. Il regarde, prêt à rire, prêt à autre chose aussi. Qui que vous soyez, qui vous nommez préjugé, abus, ignominie, oppression, iniquité, despotisme, injustice, fanatisme, tyrannie, prenez garde au gamin béant. Ce petit grandira. De quelle argile est-il fait ? De la première fange venue. Une poignée de boue, un souffle, et voilà Adam.
Alors vous aussi, vous avez l'impression que je m'éparpille ? C'est en ça que Les Misérables est une gigantesque fresque historique. Victor Hugo prend un malin plaisir à noircir des pages et des pages sur certains sujets historiques précis, parfois lointains pour nous. Je vous ai parlé du couvent. Il y a aussi un très long passage sur la bataille de Waterloo, sous prétexte que ça explique un lien entre le père Thénardier et Marius, un jeune idéaliste républicain qui deviendra l'amoureux de Cosette. En fait, à chaque fois que l'auteur juge un sujet lié de près ou de loin à son récit un tant soit peu intéressant, il en fait tout un développement qui semble avoir très peu de lien avec l'action. Il prend prétexte de son histoire pour disserter, bien souvent brillamment, il faut le dire, sur tous les sujets qu'il souhaite. On se rend finalement compte que c'est comme ça que Victor Hugo joue avec son lecteur tout au long du récit. Les passages savants sont de longues introductions avant de revenir à une action qui, elle, se fait de plus en plus mélodramatique. Ça y est, c'est l'heure. On arrive au moment où Marius et ses copains révolutionnaires installent une barricade autour d'un bistrot parisien. Et tiens, bah, puisqu'on parle de barricade, voilà un petit historique des barricades dans Paris, comment elles sont construites, comment elles sont prises, avec un top 5 des plus belles barricades. J'exagère un poil, mais vraiment pas tant que ça. Il refait le coup plus tard avec un rapide historique des égouts de Paris. Voilà. Sans doute que notre point de vue actuel, habitué à des récits courts, des épisodes de séries télé ou des films formatés, pour ça, tout ça est bien lourd à digérer pour nous. Je comprends qu'on puisse être insensible à certains passages, le déroulé de la bataille de Waterloo ou l'obédience à Martin Vega par les sœurs Bernardine, ça m'excite pas tant que ça non plus. Qu'on ait le culot de déblatérer là-dessus alors que bon, c'est pas vraiment le sujet, ça fait pas avancer le schmilblick, là par contre ça commence à me faire marrer. Dans ses digressions, comme dans ses dissertations sur la foi, la liberté, la fraternité, la politique, l'économie, l'écologie même, Victor Hugo parvient à transmettre toute sa pensée et sa personne dans une histoire sublime de sentiments, trépidante de rebondissements, de renversements, de quiproquos, d'actes criminels ou généreux, héroïques ou humains. C'est ce qu'on peut appeler, je pense, un chef-d'œuvre. Je ne vous en dis pas trop sur la fin du roman, quelques éléments seulement. Le jeune Marius part faire le héros sur les barricades pour son pays, mais c'est Jean Valjean qui reste le grand héros de cette œuvre, le héros pour sa famille, la colonne vertébrale qui, malgré l'adversité, se redresse peu à peu pour atteindre son plus haut degré d'humanité. Police! Oh, you don't
de s'écouter Cat Killer, Sound of the Police, un morceau qu'on retrouve dans La Haine, histoire de faire un petit clin d'œil un peu plus large qui résonne aussi avec Les Misérables de Lajli et donc avec cette chronique de Jean sur Les Misérables de Victor Hugo. Victor Hugo, en monument de la littérature, on fait difficilement mieux, mais comme j'aime bien la compète, j'ai décidé de vous parler d'Ulysse, de James Joyce. Ulysse. Clairement, j'ai choisi un gros morceau. Un peu trop gros à mâcher d'ailleurs. Plus de 1000 pages. C'est gratuit en e-book parce que c'est dans le domaine public, mais seulement en anglais. Donc j'ai dû rapidement abandonner parce qu'en fait, en anglais, c'était moyennement lisible. Et puis bon, parce qu'il faut continuer à payer les traducteurs et les éditeurs qui les éditent. Alors pourquoi lire Ulysse? Pourquoi se farcir plus de 1000 pages? Je ne sais pas. Je ne vous dirai rien des raisons qui répondent à la question « Pourquoi lire les classiques ?» Italo Calvino le fait très bien dans un livre qui porte exactement ce titre-là, « Pourquoi lire les classiques ?» Alors je vais laisser Calvino vous expliquer pourquoi et je vais me contenter d'un très humble et très personnel « comment », c'est-à-dire comment, moi, je m'y prends. Déjà, souvent, je m'y prends comme un manche, mais j'essaye d'éviter différents écueils. Par exemple, même quand on lit un livre sur lequel pèse tout le poids de la fame, il faut se rappeler le droit inaliénable de tout lecteur à sauter des phrases, des paragraphes, des pages, à y revenir plus tard si vraiment ça ne fait plus sens. Bref, se laisser toute latitude de rendre la lecture moins fastidieuse. Et se rappeler aussi qu'on a le droit de ne pas comprendre et de poursuivre sa lecture tout de même. Quelque chose fera bien sens à un moment donné. Alors évidemment, quand on lit la quatrième de couverture, ça met un peu la pression. James Joyce, Ulysse, le 16 juin 1904, à Dublin. À partir des déambulations, élucubrations, rencontres et solitudes de trois personnages, Leopold Bloom, Stephen Dedalus et Molly Bloom, Joyce réécrit l'Odyssée d'Homère. L'architecture d'Ulysse est un incroyable tissage de correspondances. Le roman foisonne d'échos internes, de réminiscences, de choses vues et entendues, digérées et métamorphosées. En même temps que Proust, Joyce écrit le grand roman de la mémoire et de l'identité instable. Dans ce livre qui tient de l'encyclopédie et de la comédie humaine, l'auteur convoque tous les styles, tous les tons, y compris comiques, du monologue intérieur au dialogue théâtral. La lecture d'Ulysse est de ces expériences déterminantes qui changent notre perception du roman comme notre vision du monde. Et puis, en plus, sur mon exemplaire, il y a aussi une petite citation signée James Joyce qui nous dit « Si Ulysse n'est pas fait pour être lu, alors la vie n'est pas faite pour être vécue. » Donc, oui, bon, ne pas se mettre la pression, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire parfois, mais il faut éviter. Il faut aussi éviter, à mon sens, de vouloir trop appréhender une œuvre par la critique qui en a été faite. Bon, c'est exactement ce que vous propose cette émission, alors je vais essayer de pas trop cracher dans la soupe, mais concrètement, on a souvent peur de se confronter au classique sans une petite aide herméneutique de type insérer ici un nom connu dans le domaine de l'analyse littéraire et des avis éclairés. Mais on peut tout à fait lire Ulysse sans l'aide de quiconque, et se faire son propre avis sur la révolution que ce roman peut représenter dans l'histoire de la littérature. Cette révolution, on en connaît souvent un des noms. C'est le fameux stream of consciousness, le fameux flux de conscience, qui serait un des éléments marquants du roman. Et effectivement, ça l'est. C'est ce qui rend la lecture d'Ulysse à la fois passionnante et très exigeante. Passionnante parce qu'on est tous enfermés dans nos têtes, dans nos propres flux de conscience, notre propre manière de percevoir les choses, les gens, les événements. Et là, on a la possibilité d'être littéralement dans la tête des personnages. Pas à la manière d'une simple focalisation interne avec « Gérard pensait avec mélancolie à sa côtelette d'agneau renversée par terre ». Non, là, on a un mélange des genres avec beaucoup de discours indirects libres, des bouts de pensée qui sont à l'état brut, sans formalisation par la grammaire, sans même forcément non plus le contexte qui les a fait naître. Et c'est pour ça que c'est à la fois passionnant et exigeant, parce qu'on ne peut pas lire Ulysse comme on lirait Martine à la plage. Il faut faire un réel effort de projection. Il faut être à la fois très attentif à ce qui est dit, pour inférer tout ce qui ne l'est pas, et en même temps il faut se laisser un peu flotter dans ce flux de pensée qui n'est pas le nôtre, et sur lequel on n'a pas de prise.
Il y a quelque chose d'assez grisant comme ça à pouvoir accéder à tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un lorsqu'il marche dans la rue, qu'il discute avec autrui, qu'il pense à des jeux de mots dont personne ne profitera jamais. Je vais vous lire un extrait pour vous donner une idée de ce qui se passe un peu dans la tête d'un des personnages principaux qui s'appelle Leopold Bloom. Le cœur battant, il poussa la porte du restaurant Burton. La puanteur le saisit à la gorge. Il tremblait déjà. Épais jus de viande, brouet de légumes. Voyez comme se nourrissent les animaux. Des hommes, des hommes, des hommes. Perché sur de hauts tabourets de bar, le chapeau en arrière, à table réclamant encore du pain à volonté, buvant à grande lampée, engloutissant à pleine gueule des quantités de mauvaise bouffe, les yeux exorbités, essuyant leurs moustaches trempées. Un jeune homme blême, au visage adipeux, faisait reluire ses timbales, couteaux, fourchettes et cuillères avec sa serviette. Un nouveau bataillon de microbes. Un homme, avec autour du cou un bavoir maculé de sauce, engloutissait sa soupe à pleine cuillère avec force bruit de bouche. Un homme recrachait dans son assiette. Un cartilage à moitié mastiqué. Pas les dents pour le même mâché. Côte de mouton grillé. Finissait par l'avaler. Le regard triste de l'alcoolo. Les yeux plus gros que le ventre. Est-ce que je suis comme ça ? Se voir comme les autres nous voient. Homme affamé, homme enragé. Travail de la mâchoire et de la dent. Attention, oh, un os ! C'est ce dernier roi païen d'Irlande, Cormac, dans la poésie qu'on apprend en classe, qui s'est étranglé à Sleaty au sud de la Boyne. Qu'est-ce qu'il pouvait bien manger ? Une chose goulussieuse. Saint Patrick l'a converti au christianisme. N'a tout de même pas pu tout avaler. Un rosbif au chou ! Un ragoût, hein ? Odeur d'homme. Ça lui soulevait le cœur. Sûr à Glavio, fumée douce à traitier d'as de la cigarette, relent de chic, flaque de bière, pisse biéreuse de ces hommes, l'odeur de renfermé de la fermentation. Impossible d'avaler une bouchée dans cet endroit. Le type qui aiguise son couteau et sa fourchette pour s'envoyer tout ce qu'il a devant lui. Ce vieux qui récure ses chicots. Des ruminants. Petit spasme. Le plein. On remâche ce qui est remonté. Avant et après. Les grâces après le repas. Regardez-moi ce tableau. Et puis celui-là. Il sauce le restant de ragoût avec des mouillettes de pain. Lèche ton assiette, mon vieux. Allons-nous-en. Voilà, j'espère que cet extrait vous a permis d'appréhender un peu l'écriture d'Ulysse, de voir comment ce qui est rendu dans le roman, dans cette écriture, c'est tout ce qui s'imprime dans la conscience, c'est tout ce qui impressionne la conscience, depuis les impressions visuelles, sonores, olfactives, jusqu'aux pensées qui leur sont liées et aux pensées qui sont liées à ces pensées, qui vont faire émerger des souvenirs comme ça dans une écriture qui est très labyrinthique et dans laquelle on peut se perdre, mais dans laquelle il faut accepter de se perdre pour se retrouver. C'est un petit voyage et j'imagine que ça a un lien avec le titre. Voilà, c'est tout pour moi sur Ulysse de James Joyce. C'était J'irai cracher sur vos ondes avec une émission Monument de la littérature. Et après toutes ces vieilleries, un peu de modernité avec un flash info signé Agathe.
Et bonsoir à tous. Le poète et diplomate Édouard Monique est mort samedi soir. Originaire de l'île Maurice, il était vu par Léopold Sédar Senghor comme le poète noir de la deuxième génération. Il a reçu 2 prix de l'Académie française au cours de sa carrière, dont le Grand Prix de la Francophonie en 2003. Il avait 89 ans. Le confinement a profité à la Bourse aux Livres. La plateforme en ligne annonce avoir vendu 260 000 livres un an après leur lancement. Créée en 2019 pour remplacer la Bourse aux Livres locale, elle permet de vendre et acheter des livres d'occasion. Le Centre national du livre a revu vendredi les conditions d'attribution d'aide durable aux auteurs à faible revenu. L'institution française a fait savoir que les bénéficiaires de cette aide étaient désormais de 7 contre 15 en 2019 et qu'elle avait aussi abaissé son montant à 15 000 euros. Cette décision intervient dans le cadre de l'affaire Matzneff. L'auteur était en effet un des bénéficiaires. Le prix Goncourt a dévoilé jeudi soir les 4 finalistes de son prix du premier roman à l'issue d'une réunion en visioconférence. Les auteurs retenus sont Abigail Assor, Olivier Hersen, Émilie Malfatto et Dimitri Rouchon-Bory. Il faudra en revanche attendre le 4 mai pour connaître le lauréat.
Voilà, j'irai cracher sur vos ondes, c'est fini. J'espère que vous avez bien augmenté votre capital symbolique. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note, vous retrouverez l'émission en podcast sur le site de SILAB et vous pouvez aussi suivre le programme foisonnant de l'émission sur Facebook et sur Twitter. À la semaine prochaine.